Soyez les bienvenus pour ce deuxième rendez-vous du Club Talent. Sur ce deuxième rendez-vous, l'idée est d'aller peut-être plus loin et de réfléchir sur les attentes des candidats de demain. Et moi, j'entends beaucoup de clients, il y en a certains autour de la table aujourd'hui, on s'interroge sur comment on capte finalement ces candidats ou ces étudiants qui sortent d'école, comment on les capte et comment on peut changer finalement notre façon de recruter. Qu'est-ce qu'on peut changer selon vous, Marcel ou Florence, dans cette façon de parler aux candidats pendant un process de recrutement?
C'est une question un peu compliquée, hein.
Oui.
Je pense qu'il faut complètement repenser la façon dont on recrute. Aujourd'hui, on recrute souvent sur des modes un peu classiques, avec des annonces un peu classiques, des modes de rédaction d'annonces qui sont un peu classiques. Je pense qu'il faut très rapidement montrer au candidat l'entreprise, la structure dans laquelle il va travailler, à quoi elle ressemble, peut-être le lieu aussi. Parfois, il y a des gens qui se disent « moi, je ne travaillerai jamais là ». Et leur expliquer, leur montrer, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Frédéric, à quoi va ressembler leur manager, comment il va manager, comment il va être piloté, qu'est-ce qu'on leur offre pour être une vraie ressource pour l'entreprise et comment on peut l'accompagner tout au long de son parcours. La question de l'accompagnement, elle n'est pas juste sur l'évolution dans son parcours professionnel, mais ça peut être aussi sur la formation, comment il tient à jour ses compétences, comment on renouvelle ses compétences. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui font qu'aujourd'hui, on est encore sur des modes assez classiques et il faut arriver à sortir de ça et trouver des choses un peu plus dynamiques.
Oui, je pense que pour rejoindre ce que Florence dit, cette notion d'accompagnement, elle est clé. Parce qu'on sort du cadre que du développement de carrière ou voir juste la transition au sein de l'organisation. Je sais qu'Hubert Joly a mis de l'avant toute une pédagogie sur le leadership responsable ou à sens. Et ce qu'il a encouragé au sein de ses employés, c'est d'avoir des projets à l'extérieur. Comment on vous aide dans vos constructions de projets, non seulement au sein de l'organisation, mais à l'extérieur de l'organisation, et que ça vous amène sur d'autres directions qui sortent de chez nous, c'est OK. Mais toute cette culture ou ce genre de changement de position, c'est ça que les étudiants recherchent aujourd'hui aussi. C'est qu'est-ce que vous allez faire pour m'aider à développer ma personne sur les prochaines années à travailler avec vous. Et donc, je pense que fondamentalement, il y a une question de confiance qu'on a besoin de recréer avec nos candidats, avec nos étudiants, parce qu'ils ont vu beaucoup de changements, même dans la dernière année, dizaine d'années, avec des gros sujets, des déséquilibres financiers, des inégalités, tout le bazar. Et donc, il y a un peu ce genre de sous-courant de confiance. Pourquoi je devrais avoir confiance avec cette organisation? Est-ce que c'est que de l'affichage ou est-ce que c'est du vrai en arrière? Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur qui va me donner confiance que je vais vouloir m'investir?
Peut-être pour compléter, je trouve que les candidats vont peu sur les sociétés.com, peu sur les éléments financiers de la société. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que comme maintenant ils ont deux propositions en main, ils se font aider par Google ou Glassdoor. Pour finalement, je vais aller là où la meilleure note, la société a la meilleure note.
C'est donc hyper riche que ce que vous venez de partager avec nous tous, parce que exactement, en fond, ce qu'on voit ici, même en enseignement supérieur, c'est d'un côté la question de confiance et tout le bazar, et cette notion de transparence. On l'a vu également, il y a une étude majeure qui est sortie via LinkedIn il n'y a pas très longtemps, mais qui démontrait que les gens demandent de plus en plus de transparence salariale sous le label de l'équité des salaires entre les genres. Et à l'inverse, ce que vous voyez avec les plus jeunes, c'est qu'on valorise de plus en plus ma personne. Est-ce que je peux être Marcella Liberté, québécoise, anglophone, hétéro, peu importe. Est-ce que je peux être cette personne avec vous ou est-ce que je dois changer ma personnalité pour intégrer l'organisation? Ça, c'est des vraies questions de fond. C'est est-ce que je perçois que je peux être ma personne au travail? Est-ce que je perçois que je peux être moi avec mon manager, par exemple? Et moi, ça veut être avec toutes ces différentes casquettes qui me définissent.
Est-ce que les évolutions des dress codes, ça peut paraître anecdotique, mais est-ce que ce n'est pas venu aussi brouiller un peu les cartes, et ça rejoint ce que vous disiez, Marcel, sur vous me prenez finalement tel que je suis. Est-ce que vous le mesurez, ça?
Oui, effectivement. À l'école, c'est clair qu'on s'expose comme on est.
Mais je crois que ça se passe dans les deux sens.
Oui.
Moi, je vais vous donner une anecdote. Je suis allé rencontrer un service financier chez un de mes clients. Je me suis, comme on m'a appris ces 30 dernières années, je me suis habillé comme un banquier. Et je suis arrivé en face de moi, mes interlocuteurs, qui étaient des interlocuteurs de très haut niveau, étaient en jean, en basket. Mmh. Et je me suis mis à la place du candidat, et j'ai trouvé ça attractif aussi.
Bien sûr. Je le vois même, je veux dire, je suis très familière avec l'environnement de l'informatique également. Mon mari travaille pour une boîte de télécom, ils sont exactement comme vous décrivez, c'est des niveaux élevés, je veux dire, ils ont des grands groupes à gérer, mais ils sont jogging, t-shirt, c'est vraiment la culture d'être moi et d'être confortable parce que c'est mon cerveau qui compte. Et ça, de pouvoir être soi-même dans ces environnements-là est vachement important. Mais je le vois, on le voit même nous-mêmes dans les directions, c'est plus le classique costard-cravate, ça change aussi chez nous. Et c'est pas nécessairement une mauvaise chose non plus. Ça revient sur cette notion de « je peux être moi ». Mais ça pose des questions parce que ça évoque, je veux dire, qu'est-ce que ça représente pour l'organisation devant sa clientèle aussi. Et inversement, est-ce qu'on est un reflet de notre clientèle? Je pense que c'est ça les questions de fond qu'on se pose également, c'est qui sont ces consommateurs, qui achètent chez nous et est-ce qu'on reflète cette société qui est devant nous?
En tout cas, ce que l'on voit sur la tenue vestimentaire, c'est aussi un des exemples, un symbole de la désinhibition des candidats. Et effectivement, encore une fois, ces cadres sup osent venir, ne plus venir en costard, cravate, comme on dit, ils viennent pour certains en jean à des entretiens de recrutement. Et c'est en ça que je trouve qu'il ressemble de plus en plus aux étudiants une certaine forme, peut-être d'immaturité ou au contraire de grande maturité, comme vous le disiez Marcel tout à l'heure, sur finalement ces entreprises, elles doivent me prendre comme je suis, et puis c'est OK avec ça.
Et donc maintenant, on est vraiment dans est-ce que je peux me retrouver comme personne dans l'organisation? L'individu versus l'organisation et comme vous avez dit, et de voir est-ce que l'organisation met en place ces structures pour permettre à ces individus de se retrouver. Alors, on parle aux États-Unis, on voit bien le phénomène des groupes d'affinité. Les multinationales l'ont également au niveau des groupes d'affinité pour qu'on puisse avoir, Amazon, je pense qu'ils ont les Women Warriors, des anciens vétérans, femmes. Ils vont avoir toute la dimension sur les différentes... les origines, par exemple. C'est des trucs en plus difficiles pour nous ici en France parce qu'on est dans le principe de l'universalité, mais ce sont quand même des phénomènes qu'on commence à voir de plus en plus, même dans nos organisations et les demandes de nos employés. Donc, comment qu'on a ces groupes d'affinités, c'est pas le bon terme en mon esprit, mais bon, est-ce que ça donne cette couleur que je peux être moi ici?
Ça pourrait prendre quelle forme, Marcel, selon vous, ça, ces groupes d'affinités dans nos entreprises?
Ça va être des groupes, en fait, c'est des groupes sociaux qui se font dans les organisations. Je sais que quand je parle avec différentes boîtes, ça commence à émerger ici en France. C'est des phénomènes qu'on voit à l'international, mais qui commencent à se décliner. Ça a, en revanche, ses faiblesses, parce que ça peut créer d'autres divisions. Il faut faire très attention, et c'est un peu ce qu'on peut voir aux États-Unis présentement. Mais ça peut être un très grand véhicule aussi pour l'intégration, l'inclusion au niveau des organisations. Et ça, au travers des générations, j'ai vu des groupes d'affinités qui se font sur le multigénérationnel pour apprendre comment parler ensemble, pour se comprendre déjà. Comment je peux avoir des conversations, comment je peux être moi dans ma génération, mais comprendre ce que l'autre est en train de dire au travers de ces groupes d'affinités qui facilitent ces transitions.
Je voulais savoir ce que vous pensez, vous, du nouveau mode d'organisation de travail par rapport au full remote, donc 100% télétravail pour travailler n'importe où. Mais est-ce que le sentiment d'appartenance à l'entreprise ne risque pas d'en prendre un coup dans l'aile?
Pour moi, ce qui compte, et toute la littérature nous le démontre également, c'est comment on crée l'engagement envers l'organisation. Et ce, peu importe si on est à 100% en télétravail ou pas. Il y a des différents outils ou méthodologies qu'on peut imaginer, mais c'est toute cette relation, comment on la construit dans un autre environnement. Et c'est intéressant même avec nos jeunes, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de liens via l'ordinateur, et il y a un apprentissage qui se fait que moi-même, je n'aurais pas imaginé faire il y a même 10 ans. Et donc, c'est comment on adapte avec tous ces genres d'outils dans le langage et dans notre engagement avec nos différents employés ou groupes. Et ça, je le vis avec la casquette que j'ai eue à gérer les équipes dans ce cas de figure. Et ça revient pour moi personnellement, avec tout ce que je peux voir, c'est cette notion de confiance. Et dans la notion de confiance, ça peut se faire et ça peut s'imaginer. Il y a énormément d'exemples d'organisations qui ont travaillé qu'à 100% online depuis COVID et qui continuent encore aujourd'hui. Ça fonctionne et donc ça diminue énormément de coûts pour l'organisation, mais ça a été un gros travail avec les équipes managériales pour pouvoir créer cet engagement continu envers les équipes.
Vous parlez de confiance, de transparence, Marcel. Et pour revenir sur ces process de recrutement, on voit quelque chose émerger depuis quelques semaines. C'est cette attente qui est très très forte des candidats d'avoir sur les annonces les rémunérations. Ça, c'était un peu le franco-français. On enlevait ça parce qu'on voulait laisser une place à la négociation. Alors, les gens de l'APEC nous avertissaient régulièrement qu'on avait moins de retours sur les annonces quand on ne mettait pas la rémunération. Là, c'est devenu beaucoup plus important. Et ça va devenir finalement un critère d'attractivité, de transparence, de confiance, de remettre ces éléments-là dès le départ. Je pense qu'il y a une cohérence qui est attendue sur l'ensemble du process, que ce soit de l'intégration ou bien de la captation de ces talents. Et ça passera peut-être par ces détails.
Et je ne minimise pas aussi, je pense que dans l'exercice, pour ça je reviens sur le contexte de l'organisation, si on fait la transparence sur les salaires au recrutement, qu'est-ce que ça veut dire en interne aussi pour nos collaborateurs. Et c'est ça, cet équilibre, parce que ça, je pense que c'est intéressant, ces initiatives sur les plus de 50 ans, parce que des fois, on a également une génération peut-être de personnes qui, eux, pour le coup, voulaient rester avec la boîte toute leur vie. Et donc là, ils voient un peu ces divisions ou des meilleurs salaires, et donc ils se posent des questions. Donc ça crée un peu des déséquilibres aussi. Donc le travail doit se faire en deux sphères aussi, pour être très cohérent sur l'ensemble.
Et moi, si je peux rajouter quelque chose un peu de fin, je dirais, moi, je trouve que la période de la crise sanitaire, elle a un peu tout bouleversé. Elle nous a obligés tous à être très innovants. On est dans une période expérimentale qui est intéressante pour tout le monde. Ça nous oblige à sortir un peu de nos zones de confort et trouver des choses très innovantes. C'est pas facile. C'est pas facile d'attirer des gens dans ce contexte-là. Mais ça nous force un peu à trouver des manières innovantes d'attirer des gens dans notre entreprise, quoi, et de les garder et de leur proposer des choses qui sont acceptables selon qu'ils sont jeunes, moins jeunes, voilà, mais qui sont acceptables pour eux et pour nous aussi, hein.
Absolument. Et alors peut-être pour conclure, c'était extrêmement intéressant d'échanger sur cette fameuse guerre des talents dont on parle depuis 20 ans, mais ça y est, je pense qu'on y est, on est dans cette guerre. Et voilà, et je pense que ça nous oblige à repenser nos façons d'interagir avec ces candidats. Et je trouvais particulièrement intéressant, Marcel, d'aller explorer, voir ce que les étudiants ont derrière la tête, parce que ça va être nos candidats dans quelques années. On va les rencontrer et c'est autant anticiper.